compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposé par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lectrices et lecteurs, auditrices et auditeurs. On ouvre le 11e chapitre du volume 3 de Polar, Vin et Compagnie. Et je me suis aperçu que ça faisait à quelques jours près 2 ans que Polar, Vin et Compagnie, l'émission, existait. Et donc je suis avec mon inséparable complice Florent, alias parfois l'inspecteur des Riffs, par alternance.
Oui, bonjour, 2 ans, waouh.
Et Nico qui est toujours là. Et surtout aujourd'hui c'est un numéro spécial, Jackie Schwartzmann, qui est un auteur qu'on a reçu sur le festival Polar Vin et Compagnie, et puis on va faire un point avec lui sur son actualité. Mais tout d'abord, une information informative de la part de Florent.
Écoutez.
Quelle heure est-il ?
Il est midi.
C'est l'heure de déjeuner.
Qu'est-ce qu'il y a à manger ?
Parce qu'on est sérieux quand même dans cette émission, donc lecteur, lectrice de romans policiers, thrillers et autres romans noirs, chers auditeurs et auditrices, merci. Merci, car grâce à votre passion pour la lecture de genre policier en l'occurrence, et ça c'est le SNE qui nous le dit, grâce à vous donc, les ventes de livres dits de littérature, dans lesquels on inclut le roman policier, ces ventes de livres ne sombrent pas et connaissent même une légère hausse. Alors encore bravo. Alors pour info, le SNE, c'est le Syndicat National de l'Édition, et tous les ans, en janvier, le SNE fait le bilan économique du secteur de l'édition. Et c'est en ligne sur leur site sne.fr. Vous y trouverez notamment des infos et des nouvelles du polar. Et le polar, c'est des milliers de nouveautés et de réimpressions par an, quasiment 7000 en 2024, pour 195 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et oui, on parle business ici. 3% d'hausse, bravo. Bravo les auditrices et auditeurs. Nous autres amateurs de polar savons bien que la grande force de ce genre de littérature, ou littérature de genre, c'est de pouvoir aborder toutes les aspérités de nos sociétés, sous tous les angles et sous les formes les plus variées. Stop ! Les formes les plus variées ? Tu en rajoutes par débordement d'enthousiasme, sans doute, Florent. Ah, vous croyez ? Eh bien, savez-vous que même la poésie n'a pu échapper à l'emprise du polar ? Il est vrai rarement, mais cependant, on pourra retenir par exemple que Léo Mallet est passé de la poésie surréaliste au roman noir parisien avec son célèbre personnage Nestor Burma, que je vous invite à lire parce qu'il y a beaucoup de poésie chez Léo Mallet. Plus récemment, Julie Walkenstein avec La vie de famille, qui est écrit en vers blanc, c'est-à-dire une métrique poétique mais sans les rimes, et qu'on trouve édité en français. C'est une autrice américaine qui raconte une histoire autour d'un fait divers, une histoire de famille évidemment. Il y a Toby Barlow, un américain qui a écrit un polar assez trash qui se passe à Los Angeles et qui est un véritable polar poétique. Ça s'appelle Sharp Teeth, la dent aiguisée. Ou encore de Bertrand Rouillet, un auteur bien français qui a édité il y a peut-être une dizaine d'années, mais je veux sans doute dire une bêtise si je donne une date précise, Pierre Feuille Ciseaux, qui pour le coup est un véritable polar tout en alexandrin. Malheureusement épuisé, mais qu'on trouve sur toutes les plateformes de vente de livres d'occasion ou chez votre libraire d'occasion. Voilà des exemples de poésie polar. En conclusion, si vous n'aimez pas le polar, ou plutôt si vous croyez ne pas l'aimer, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir le roman policier sous toutes ses formes. Et ça commence en écoutant PVC sur Radio Larzac.
Merci Florent pour cette nouvelle chronique et toutes ces informations. Le temps est venu maintenant de recevoir notre invité, Jackie Schwartzmann. Bonjour Jackie.
Bonjour.
On t'a reçu à Polar Vin et Compagnie, alors le festival, pas l'émission de radio, en 2021, en pleine promotion de Casso, à ce moment-là.
Ouais.
On y reviendra. Avant, il y avait eu Demain c'est loin. Et depuis, voilà. Il y a eu Sheet en 2023, multi-récompensé, Le théorème du kiwi, un livre jeunesse en 2024, Bastion en 2025, lui aussi j'aimerais bien en reparler, et cette année, oui. Killing Me Softly, qu'on n'a pas encore lu, en tout cas moi, mon pouvoir d'achat me limitant au format poche, et comme c'est tout récent.
Alors c'est un semi-poche.
Ah oui, oui, c'est ce que voilà. J'ai entendu, oui, donc voilà. il est entre 20 et 10 euros, c'est ça.
Il est à 15 et quelques.
Ouais, voilà. Donc allez, je vais essayer de faire un effort. Alors, l'apparition l'année dernière de la BD en deux volumes, Abemus Bastard, avec comme complice au dessin Sylvain Vallée. Sinon, quoi de neuf depuis ton dernier passage à Millau ?
Eh bien, tout ce que tu viens d'évoquer, effectivement. Et surtout, c'est. Quand je suis venu à Millau, c'était le tout début où je commençais à vivre de mes bouquins et à faire que ça. Et donc maintenant, effectivement, je ne fais que ça. C'est pour ça qu'il y a quand même une accumulation de titres. Je travaille beaucoup. Et des projets cinéma aussi. Alors, c'est toujours très compliqué. Ça se fait, ça se fait plus. Ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Mais Sheet est en cours d'adaptation. Là, j'écris le scénario avec une réalisatrice. Et le dernier, donc Killing Me Softly, est déjà optionné par des producteurs qui veulent aussi en faire un film.
Ah oui. Ouais,
donc, mais bon, là, je m'emballe pas parce que ça m'est arrivé 20 fois, dont Casso, dont tu as parlé tout à l'heure. C'était sûr, ça devait se faire. Et puis.
Justement, je voulais revenir dessus parce qu'il y en a un qui t'aime bien, c'est Antoine Decaune. D'ailleurs, sur Bastion, sur le bandeau, il a écrit Jeter au feu les antidépresseurs, lisez Schwartzmann. J'ai réécouté un petit peu en préparant l'émission, justement, le pop-pop-pop là, en 2021, où il t'avait mis en relation avec Casso, parce qu'en plus, tu nous avais raconté cette anecdote. Et tu dis, c'est pas allé au bout.
Ben non, voilà, c'était pourtant bien parti, parce qu'Antoine voulait réaliser le film. Quelques temps après cette émission, il m'a rappelé pour me dire voilà qu'il avait l'envie de réaliser le film, que Kassovitz était d'accord pour jouer le rôle de son sosie, et qu'il me demandait si ça m'intéressait d'écrire le scénario avec Laurent Chalumeau.
Donc, oui.
Je lui ai dit, écoute, ouais, ça me paraît pas mal tout ça, et il y avait Canal+ qui était intéressé, moi j'avais un producteur. Donc on a fait un mix de tous ces gens, on a fait une belle réunion, où on était tous copains, tous contents de travailler ensemble. J'ai fait deux versions du scénario avec Chalumeau, qui est venu à Besançon passer quelques jours pour l'occasion. Et puis le producteur s'est retiré et depuis ce jour-là, il s'est rien passé.
Voilà. Ah, dommage.
Bah oui, mais après, ça aurait fait des projets. Ça se trouve, ça va repartir dans 2 ans. Et,
ouais.
Et voilà. Hein, mais,
je pense que ça aurait fait un bon film. En tout cas, nous, avec Florent, que j'ai cité tout à l'heure, et puis un autre copain, là, on a bien déliré sur La Poutre. On prévoyait même de faire un club échangiste qui se serait appelé La Poutre. Enfin, bon, voilà.
Ben ouais, voilà. Alors, c'est. La Poutre, ça vient de. Je ne sais pas si tu connais la série Hard sur Canal+. C'est une série très drôle. C'est l'histoire d'une femme. Très très bourgeoise, vraiment qui vit. La famille vit dans une villa, un pavillon à Neuilly ou ce genre-là. Les enfants font de l'équitation, etc. Et le mari se tue en tombant d'une échelle. Et en fait, là, l'épouse se retrouve donc devant un notaire et elle apprend que tout l'argent vient de son mari vient du fait qu'il était producteur de films porno.
Ah.
Ce qu'elle ignorait complètement. Et elle s'appelle Sophie, et la boîte de prod s'appelle Sophix. Voilà, donc elle découvre plein de choses.
D'accord.
Et je ne sais plus comment s'est goupillé le scénario, mais il se trouve qu'elle est obligée de reprendre la boîte, elle ne peut pas vendre. Et donc elle se retrouve à 50 ans à devenir productrice de films de cul, alors que ce n'est pas du tout son univers mental. Et elle fait la rencontre d'un acteur qui s'appelle Roy Lapoutre. Voilà.
D'accord.
C'est un des acteurs de l'écurie, si je peux me permettre. Voilà.
Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est dans Casso. Hein.
Voilà, dans Casso, tout à fait.
Alors j'ai remarqué qu'il y a plusieurs intervieweurs qui reviennent toujours sur ton parcours scolaire qui n'a pas été brillant apparemment. Bienvenue au club.
Ouais,
et alors chaque fois, tu te revendiques comme le poète du lycée. Alors, dans la génération qui te suit, il y a un autre artiste qui se présente comme tel, c'est Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton.
Ouais.
Alors, pourquoi avoir choisi le roman et pas la chanson ?
Déjà, je chantais mal. voilà. Après, moi, j'ai comme très, très vite parti sur de la poésie très urbaine, beaucoup plus proche de Joe Star que de Arthur Teboul, déjà. Voilà. Donc, et puis, non, moi, j'ai toujours écrit, en fait. Et quand j'écrivais de la poésie au lycée, dans mon esprit, je voulais sortir des recueils de poésie. Je voulais pas du tout être sur scène. Sur scène, je suis pas musicien, je chante faux. Voilà.
Alors plus sérieusement, pourquoi le polar ?
Eh ben ça, je me l'explique pas trop non plus. C'est vrai que j'en lis énormément. J'ai toujours aimé ça. Et mon premier roman publié vraiment, c'était Mauvais coup à la fosse aux ours.
Ouais, mauvais coup avec un jeu de mots, bien sûr.
Ouais, voilà, comme le coup financier. Et c'était sorti à la fosse aux ours, donc en littérature blanche, mais il y a pas mal de libraires qui le mettaient en polar. Ça a commencé comme ça, ouais.
Ouais, je me demande souvent si c'est... Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment du polar ? Parce qu'à la fois, c'est très, très drôle, tes héros, c'est quand même des tocards, quoi, ce que j'appellerais, moi, je ne sais plus qui les appelait comme ça, les losers magnifiques.
Oui, c'est ça.
Et voilà, c'est super drôle, c'est jubilatoire. Et je sais pas, moi je lis du Schwartzmann. Des fois, j'ai même pas envie de te classer parce que c'est vraiment.
C'est pas vraiment du polar. Je suis un peu à cheval entre tout et rien. Voilà, c'est ma tambouille, quoi.
Ouais.
Mais après, quand j'ai sorti Mauvais coup, j'ai été contacté par les éditions du Seuil en me demandant si je voulais être au Seuil. Donc j'ai pas réfléchi longtemps. Et c'était dans une collection polar, collection le cadre noir qui était les polars français. Donc il se trouve que je suis rentré là un peu dans le monde du polar. Enfin, quand je dis dans le monde du polar, c'est les auteurs, les professionnels de ce monde-là, les festivals, etc. Et que je m'y sens plutôt bien. Voilà. Et puis moi, j'ai pas de snobisme à vouloir être dans la littérature blanche. Voilà, je suis bien dans le polar. C'est un monde où il n'y a pas de concurrence entre les auteurs. On se connaît tous, on est quasiment tous copains. Et il y a une mentalité un peu rock'n'roll, un peu comme dans la BD, quoi.
Bah ouais, puisque tout à l'heure on parlait de porno, il y a le fameux couple Jackie et Michou avec Michel Pedignelli.
Oui, Jackie et Michel, pas Michou.
Ah ouais, oui, pardon, Michou, non, ça n'est
pas. Oui, c'est Jackie et Michel. Bah, en fait, on s'est rencontrés avec Michel il y a 10 ans à Bruxelles, dans un festival. Et ça nous a paru tellement évident, Jackie et Michel du Polar. Donc à chaque fois qu'on se voit, on fait une photo qu'elle met sur les réseaux. En se demandant à chaque fois, mais est-ce que c'est vraiment de très bon goût ce qu'on fait ? Et pour l'instant, on continue, voilà.
Ouais, mais
ça nous amuse, quoi.
C'est comme ça qu'on a des nouvelles régulièrement, ouais.
Ouais, voilà. En plus, comme ça, les gens peuvent nous suivre, savoir où on est.
Alors, moi, je voulais revenir à Bastion, donc c'est ma dernière lecture, en fait, de toi, en tout cas. Généralement, dans tes livres, tu suis l'actualité. Et là, c'est l'actualité, je dirais, qui te suit, parce que Bastion, il suffirait d'enlever le i pour que ça devienne Baston, et c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, et c'est le cœur de ton roman, en fait, c'est les néo-nazis.
Oui, voilà, l'ultra-droite lyonnaise.
Ouais.
Ben, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps de Nicolas Leclerc, tu sais, qui est auteur au Seuil aussi, de romans policiers,
ouais.
Thriller.
Ouais.
Il m'a fait un message, il m'a dit « Jackie, la promo de Bastion à Lyon, ça va trop loin ». Ça m'a fait beaucoup rire.
Ouais.
Parce qu'effectivement, c'est en plein... Enfin, dans mon roman, il n'y a pas un facho qui se fait tuer à coups de pied dans le visage en pleine rue. Mais ça aurait pu.
Ça aurait pu, ouais. Ouais.
Et puis là, si tu veux qu'on parle deux secondes de cet événement, effectivement, là, c'est un mec d'ultra-droite qui est décédé, mais... Moi, je suis persuadé que ça aurait pu être un mec d'ultra-gauche.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Dans des conditions à peine différentes. Et je pense que tous ces gens sont cinglés de considérer que mettre des coups de pied dans le visage de quelqu'un qui est à terre, ça se fait. Quel que soit le bord politique, je ne comprends pas que humainement, qu'on puisse faire un truc comme ça et qu'à aucun moment dans la tête, on se dise non, mais c'est ce que je fais, c'est pas bien, quoi.
Voilà. Ouais, ouais, non, bon, c'est complètement débile. Hein, ouais. Mais... Ouais, 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 ouais. Il y avait un extrait que j'avais envie de lire là sur le page 101. Est-ce qu'il est bon d'être arabe en France ? Je dis bien arabe, pas musulman. On a inventé le mot islamophobie, mais personne n'est capable de citer la dernière agression sur un musulman en France du fait de sa religion. Les fachos n'ont rien contre les Indonésiens, alors que c'est le premier pays musulman au monde. Et je suis persuadé qu'un arabe en France qui serait converti au christianisme ne serait pas plus avancé. Enfin, je trouve que tu vas de plus en plus vers la politique. C'est une impression, ou alors je sais pas, comme j'ai pas lu Killing Me Softly, j'ai l'impression que ça. Enfin, ce que j'ai compris, ça se passe dans un EHPAD, c'est ça?
Oui, là c'est un tueur à gages. Je joue vraiment avec les codes de la fiction autour d'un tueur à gages, dans le sens où le mien. Parce que à chaque fois que t'as un tueur à gages en BD, en film, en série, il est seul, il fait la gueule, il a une vie à la con. Hyper froid, il calcule tout, et moi je me suis dit, mais ça m'énerve, ça m'intéresse pas. Donc moi j'ai fait un gars qui a une femme, qui a une gamine qui est au lycée, il se fait convoquer parce qu'elle fout le bordel en classe, enfin voilà, il a une vie normale. Voilà, ça. Et pour ce qui est de l'aspect politique, c'est surtout ce roman Bastion, où je me suis vraiment intéressé à l'ultra-droite, à Lyon, en gros, au facho, la mouvance facho, en France, et surtout à Lyon, parce qu'il y a quand même un nid là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont à Lyon, mais il y a quand même ils sont quand même beaucoup là-bas.
C'est pas pour rien si la jeune garde s'est créée là-bas, oui.
Ouais, voilà, c'est pas pour rien. Et si tu veux, moi, si je m'intéresse à un sujet, je dis tout ce que je pense sur ce sujet-là, quoi. Et effectivement, moi, je suis peut-être de la vieille école, parce que j'ai bientôt 55 ans. Et l'islamophobie, j'entends ce mot partout, mais je pense qu'il y a surtout du racisme, en fait. Tout simplement, anti-arabe, on s'en défait pas. C'est là depuis 60 ans, 70 ans en France. Et c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Il me semble, pour moi, après...
Non, mais j'en suis aussi persuadé, ouais.
Tu vois, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas le souvenir qu'un musulman se soit fait frapper ou je ne sais quoi parce qu'il était musulman.
Ouais.
Oui, oui. Alors, en revanche, s'il est arabe, ouais, ça peut être.
S'il y en a un qui s'est fait quand même, un qui s'était fait poignarder dans la mosquée, là, il n'y a pas très longtemps l'année dernière, je ne sais plus lequel. Enfin, je ne sais plus si c'était à Alès ou.
Ouais, effectivement, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est pas un phénomène récurrent.
Oui, non, c'est pas
tu
pour ça que.
Tu te dis pas, je vais cacher ma religion musulmane parce que je vais avoir des problèmes, on va s'attaquer à moi, etc. Putain, c'est. Et encore une fois, un Indonésien. Je pense que les racistes en France s'en foutent un peu, alors que l'Indonésie est le premier pays musulman au monde.
Ouais, c'est ce que j'ai trouvé drôle dans cet extrait, ouais.
Ben voilà, donc, ouais, moi, dans tout Miramont, j'essaie de jouer avec les clichés de tout le monde, et puis d'essayer de dépêtrer de trois choses. Quoi, à l'inverse, j'ai un personnage qui fait du... qui fait de la maraude à Lyon, donc de la maraude, c'est-à-dire que tu vas le soir en ville et tu donnes à manger ou des couvertures à des pauvres, aux SDF, etc., dans la rue. Mais sauf que, comme c'est des fachos, ils donnent que aux blancs. Il y a un moment, ils trouvent des blancs, une famille de blancs, effectivement, qui donne à des vivres. Il y a un sandwich jambon et le monsieur dit « Bah non, j'en veux pas, je suis musulman.
Ouais, » ouais.
Parce qu'il est... Et du coup, le nazi là qui file le sandwich, lui, il fait un AVC parce qu'il comprend pas. Pour lui, musulman, c'est arabe. Et en fait, un de ses potes, il dit « Non, mais c'est sûrement un géorgien ou un tchétchène. » Enfin voilà, des musulmans des anciennes républiques...
Qui nous ressemblent un peu quand même. Hein,
qui nous ressemblent un peu physiquement, voilà. Ouais. Et donc ça m'amuse de jouer avec ces... de jouer avec ces clichés, ces codes, etc. quoi.
Bah, d'une manière générale, ça t'amuse aussi de jouer même avec les mots. Moi, j'ai pensé à, comment il s'appelle, dans Caméra Café, là, tu sais, le commercial.
Ah bah oui.
Pour moi...
J'ai plus son nom.
Ouais, moi c'est pareil, mais ton Jean-Marc Balzan, c'est lui, quoi. Justement, ça me fait penser à un truc que j'ai lu sur toi. Une fois, tu disais, comment on appelle ça, l'espace café, en fait, c'est le meilleur endroit pour écrire un roman.
Ah bah oui. Je disais la machine à café le lundi matin.
Voilà, c'est ça.
Bah oui. Alors moi, maintenant, je suis plus en entreprise, mais j'ai été longtemps chez Alstom. Effectivement, le lundi matin, tu vas à la machine à café, t'as plein de cancans, les gens racontent leur week-end, et puis tu sais ce que... Tu prends le pouls de la société, là. On parlait de politique, t'entends parler politique à la machine à café, en même temps que t'entends parler d'un barbecue, la bagnole que je viens d'acheter...
Voilà, chacun qui raconte son week-end, ouais.
Et voilà, et t'as tout le temps un avis sur comment va la société française, etc. C'est un bon spot pour prendre le pouls de la société. Ouais.
Et aussi, en rapport avec la musique. Alors, dans Casso, c'était une cassette de Jane Birkin qui se coinçait dans l'autoradio, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Dans Bastion, tu tentes de réhabiliter Alain Souchon.
Ouais.
Et Killing Me Softly, le tube de Roberta Flack, reprise par les Fugees. Alors, on connaît ta passion pour NTM, mais en plus de tout à l'heure, on t'a cité Joël Starr, mais...
Mais c'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi, et j'ai pas d'explication. Moi, j'écoute énormément de musique, je suis passionné de musique. J'ai plein de playlists différentes. Et donc, comme moi, je fais une éponge, enfin, les auteurs, on est tous pareils, je pense. On est des éponges, et quand on écrit, bah, on est traversé par notre vie, par ce qui se passe dans le pays, dans le monde, mais aussi par nos goûts, etc. Donc, ça passe aussi. La musique et mes goûts musicaux passent dans les bouquins, ouais. En tout cas, je me l'interdis pas.
Et toujours le foot?
Ah bah oui. Ah, il est malade. Vous êtes en terre de rugby, vous comprenez pas.
Eh ouais. Alors si on comprend un petit peu, parce que tu as fait paraître chez notre voisine et amie Isabelle Auchard,
oui.
Dans sa collection
de Petit écart.
Petit écart, voilà. Je cherchais le titre exact. Petit écart et allez-vous faire foot?
Ouais, tout à fait. En fait, c'est drôle, c'est que c'est né à Millau.
D'accord, il faut que je le lise.
Et ben, en fait, Isabelle m'a demandé si j'acceptais d'écrire, de faire un petit écart chez elle. Donc, le principe, c'est qu'on demande à un auteur d'écrire sur une passion.
Et dans un style qui n'est pas le sien, en fait. Enfin,
pas forcément un style qui n'est pas le sien, mais de faire un livre qu'il ne ferait pas chez son éditeur habituel. Donc, moi, je fais des romans policiers, donc il fallait que je fasse tout sauf un roman policier. Et puis donc, elle m'a demandé de parler d'une passion, et puis on ne trouvait pas. Enfin, j'avais dit oui, mais je n'avais pas d'idée. Et à Millau, quand j'y étais, il y avait un match de poule d'un euro, je me souviens. Et c'était France-Hongrie.
Oula.
C'était nul à chier, il y a eu un partout, 0-0. Et en fait, moi, j'ai regardé le match sur mon téléphone que j'avais appuyé contre la pile de livres. Donc, je parlais aux gens. Alors, quand les gens me parlaient, je leur répondais. Hein.
Oui.
Je suis quand même correct. Mais j'avais l'écran sans le son et je m'énervais tout seul. Et donc, Isabelle était derrière moi. Et elle a vu ça et c'est elle qui m'a dit « Mais putain, faut que tu nous parles de ça. » Voilà, c'est ça que je veux entendre, moi. Je veux t'entendre parler de ça. Et donc, c'est né comme ça.
Et
je suis très, très fier de ce petit bouquin. J'aurais pas pensé, mais ça m'a permis d'expliquer ma passion pour le foot et surtout pour les compétitions internationales. Coupe du Monde, Euro, de l'équipe de France depuis que je suis gamin. C'était pas prévu dans mon plan de carrière, si tant est que j'en ai un. Mais ça m'est tombé dessus et je suis bien content.
Ouais, parce qu'en plus, c'est des beaux objets. Hein, c'est une émission qui dure qu'une demi-heure, donc on va devoir se séparer. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et puis, ben oui, effectivement, j'espère qu'on te reverra, Millau.
Et ben, ce sera avec grand plaisir.
Allez, ciao, Jackie.
Allez, salut. Bye. Hein.
À bientôt. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang
C'était Killing Me Softly par Roberta Flack, le titre du dernier roman de Jackie Schwartzman, qui aurait préféré la version des Fugees, mais Roberta Flack est décédée il y a un an, à quelques jours près. C'est un peu l'anniversaire de son décès d'une sclérose latérale amyotrophique, une SLA. Pour avoir fréquenté des personnes atteintes de cette terrible maladie et leurs aidants dans une autre vie professionnelle, c'était l'occasion de leur rendre hommage. Mais Jackie, pourquoi avoir choisi ce titre ?
Bah en fait, je ne sais plus pourquoi je me suis dit que le titre serait le titre d'une chanson. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. Et comme c'est un tueur à gages, là, il y a Killing Me, je me suis dit, non, mais c'est l'évidence que je mette cette chanson. En plus, elle me correspond, elle me parle, puisque je l'écoute énormément.
Ouais, Killing Me, mais avec douceur.
Voilà, tranquille, voilà, on est entre gens civilisés.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Jackie Schwartzman, à qui nous consacrons ce chapitre 11 de Polar Vin et Compagnie, nous a conseillé pour sublimer la lecture de ses romans de se régaler d'un vin de Bourgogne, et pas n'importe lequel, un Nuit Saint-Georges. Pour nous en parler, un proche de Polar Vin et Compagnie, puisqu'il est membre du gang des Bordelais, lui aussi, c'est Thomas, alias La Bécane, grand amateur de Bourgogne. Salut Thomas.
Salut.
Alors, Nuit Saint-Georges, rien à voir avec cette période où tous les chats sont gris, c'est le nom d'une commune.
Tout à fait, une petite commune de 5000 habitants en Bourgogne. Voilà quoi, un village viticole typique des côtes bourguignonnes. On y trouve un beffroi comme à Mignot. Et moi, j'ai pu le découvrir en allant y faire du vélo pendant mes études à Dijon avec mon pote Ludwig de Vélo Vitamine qui organise des balades et dégustations dans les vignes.
Tu as une façon particulière de visiter les caves.
Le lieu se prête assez bien aux balades cyclistes parce qu'il y a une voie verte, la voie des vignes, qui, comme son nom l'indique, traverse les vignes. On y trouve pas mal de collines, un peu pour vous faire voyager, pour vous expliquer l'endroit. Voilà, c'est plein de collines, peuplé de forêts de pins en haut ou de chaumes sur les pentes. Et après, quand on descend vers les villages, c'est là qu'il y a les meilleures vignes, celles qui sont exposées sud-est. Et en dessous, il y a le village et donc aussi les vins appellation village. Alors pour le vin, on peut trouver principalement du rouge hein, à Nuits-Saint-Georges. C'est le rouge, c'est du pinot noir, puisqu'on est en Bourgogne. Et après, il y a 5% de blanc. Voilà, le blanc, c'est du chardonnay. C'est un peu tous les vins de Bourgogne, donc village, premier cru, et pas de grand cru, je crois, à Nuits-Saint-Georges.
Ouais, là, on est dans le meilleur des Bourgognes, non?
On est vraiment, oui, dans les Bourgognes qui sont réputées, hein, puisque quand on parle des voisins, par exemple, Vosne-Romanée, ça va être des bouteilles qui vont être hors de prix, qui vont atteindre plusieurs milliers d'euros. Et pour éviter la spéculation sur les bouteilles de ce secteur, ils ont mis en place, en fait, un achat où on ne sait pas encore ce qu'on a, et potentiellement dedans, on a une Vosne-Romanée. Donc c'est pour expliquer un peu le prestige du coin. Mais Nuits-Saint-Georges reste un peu quand même ouvrière par rapport à ses voisins, puisqu'il y a pas mal d'imprimeries et quelques entreprises de négoce. Donc c'est un peu la ville ouvrière du coin.
Et c'est un vin qu'on touche à peu près à combien la bouteille?
Du Nuits-Saint-Georges, on peut en trouver, on va dire, à partir de 20-30 euros pour les villages, donc celui qui va être le moins coté. Et après, sur les premiers crus, c'est toujours pareil, ça va sur un vin de l'année. Donc un vin, par exemple, cette année de 2025, on va commencer vers les 50-60 euros. Et puis, en fonction de la rareté du vin et du prestige de l'année, on peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros.
C'est un vin de garde?
Oui, pour un premier cru, on va avoir pas mal de vins de garde. Comme beaucoup de Bourgogne, c'est rare d'avoir des Bourgognes qui ne se gardent pas. Après, sur des vins qui vont être plus accessibles, ça va être donc les Nuits-Saint-Georges Village, où là, on peut les boire directement.
Alors, c'est un vin qui accompagne les lectures donc des romans de Jackie Schwartzmann, mais sinon, c'est un vin qui va se boire à quelle occasion et quel va être le type de l'accord mets-vins pour un Nuits-Saint-Georges?
Pour un Nuits-Saint-Georges, bon, évidemment, le grand classique, hein, le bœuf bourguignon. On est sur des plats typiques bourguignons, donc le bœuf bourguignon, les œufs à merette. Mais c'est des vins qui restent assez fins. C'est aussi des vins qui vont bien aller avec une volaille ou avec du fromage. C'est des vins qui vont être bien plus fins que nos vins du Sud.
Si des personnes voulaient aller effectivement découvrir ces caves et faire du vélo en même temps, ils pourraient s'adresser à toi et à un copain à toi qui est sur place.
Tout à fait, à Ludwig, Vélo Vitamine. Voilà, je conseille vraiment ces tours, c'est super sympa. Ça permet de boire le vin là où la vigne a poussé et voilà, de découvrir vraiment le terroir autrement. Et j'avais vraiment apprécié sa passion et sa façon de faire vivre le vin, en fait.
On mettra ses coordonnées sur la page de Polar Vin et Compagnie. C'est pas trop dur, quand même, de partir faire du vélo après une dégustation?
Il vaut mieux éviter de trop boire. On va déguster juste un petit fond de verre, mais c'est agréable, voilà. On va ressentir un peu plus, on va dire, les éléments.
Ben, merci Thomas, et puis bonne route.
Avec plaisir.
Notre doyenne dans l'association Culture Art Polar Sud Aveyron fêtait son anniversaire cette semaine, et Jackie, qui l'avait rencontré lors de sa venue au festival Polar V Company en 2021, a tenu à le lui souhaiter.
Donc je souhaite un excellent anniversaire à Madeleine.
Ben, merci à toi.
C'est pour ses 51 ans, je crois.
Voilà, c'est ça. C'est un chiffre plus rond. C'est 50, en fait.
Ah, c'est 50, pardon. Ah, je l'ai vieilli d'un an.
Voilà ce 11e chapitre du volume 3 de Polar Vin et Compagnie qui se termine. N'oubliez pas, le prochain atelier écriture, c'est le samedi 21 mars, jour du printemps. Donc on attend des histoires printanières, hein, toutes
des textes fleuris.
Merci Florent à toi pour ta nouvelle rubrique, on va dire. Et puis, on se retrouve bientôt sur les antennes de radiolarzac.org ou sur le podcast Polar, Vin et Compagnie.
Merci tout le monde.